La flamme rallumée par Lia Berger. Régine Durouze n'avait été heureuse que pendant les 14 premières années de son existence. À vrai dire, c'est déjà beaucoup, car les impressions de l'enfance et de l'adolescence laissent une empreinte aussi durable que profonde dans la vie d'un être humain. On juge le monde d'un point de vue plus optimiste lorsqu'on en a franchi le seuil sous les auspices de la tendresse et de la sécurité. Comment Régine Montebal, ainsi qu'elle s'appelait alors, fille unique de parents qui l'adulaient, eut-elle conçu à ce moment la mélancolie des destinées inclémentes? Son père, M. Montebal, remplissait les fonctions d'archiviste paléographe dans la petite ville où elle était née, une chaude cité provençale blottie dans les eucalyptus, les olivets et les clos de rosiers. Sa mère était la fille d'un antiquaire, moins commerçant, certes, que collectionneur artiste, épris de ses trouvailles, et désintéressé au point de refuser la vente d'un objet, d'un meuble aimé, plutôt que de s'en séparer ou de le voir tomber entre des mains profanes. Régine avait donc été initiée de bonne heure au culte du passé, au goût du beau, d'ailleurs instinctif chez elle, en vertu des atavismes. Bibelots précieux, meubles sculptés, vieux livres, lui composaient une famille d'amis. Intelligente, compréhensive, elle apportait beaucoup d'ardeur dans ses travaux d'écolière. Devenue très vite l'une des meilleures élèves du couvent où s'accomplissaient ses études, elle tenait, dans le domaine des lettres, la tête de sa classe. Elle donnait volontiers en ses devoirs de style, ainsi qu'on disait alors, une large place à l'imagination et interprétait les vers de façon très personnelle. Mais quelle ne fut pas la surprise de ses parents et de ses maîtresses lorsqu'elle remit un jour, en guise de composition française, il s'agissait de conter une légende locale, un récit écrit en vers. Cadence et rime, certes, allaient au petit bonheur. La fillette ignorant les lois de la prosodie. Mais un certain souffle portait les phrases ailées. De jolies images les émaillaient. Leur rythme en était harmonieux. Son père, non sans fierté, lui offrit un traité de versification. Et les religieuses, par la suite, utilisèrent le don et la bonne volonté de Régine pour corser les programmes des fêtes du couvent. Du haut de la stèle triomphale, où l'adressait sa vocation naissante, Régine Montebal regardait en souriant l'avenir teinté des prestigieuses couleurs qui miroitent dans la prunelle des poètes. Il ne fallut pas longtemps, hélas, pour que fût détruit ce jardin de rêve, tel un nid vibrant de vol et de chansons qu'anéantit l'orage printanier. Au cours de sa 15e année, Régine perdit, à quelques mois de distance, son père et sa mère. Elle fut confiée à la demi-sœur aînée de cette dernière, et qui, ayant toujours jalousé la disparue, accueillit de mauvaise grâce l'orpheline dont son mari devenait le tuteur. Il fallut quitter le nid aimé, dont l'artistique mobilier fut vendu, à l'exception de quelques pièces, instamment réclamées par la jeune fille. Ces épaves du bonheur naufragé l'aidèrent à supporter le cadre et l'existence également tristes de la brumeuse ville du Nord, où elle se trouva transplantée. Son oncle y tenait un commerce en gros de quincaillerie. Seuls les gains quotidiens, les plantures au repas, et les faits divers de la gazette locale comptaient pour ce ménage, si différent de celui des parents de Régine. On lui permit toutefois de poursuivre ses études jusqu'à l'obtention du brevet supérieur. Le titre sonnait bien aux oreilles de ces provinciaux sans culture. Solitaire et nostalgique entre ses deux gardiens, elle se consolait en travaillant et parfois en rimant. Toutefois, l'idée ne lui vint jamais de montrer ses essais à ceux qui ne pouvaient la comprendre. Ses 18 ans sonnés, ses brevets en poche, Régine fut initiée à la comptabilité et promue caissière de la maison. Une telle angoisse l'étreignait quand elle se vit enfermée en sa cage vitrée, parmi les grands registres et les cartonniers, qu'elle accepta, comme une bouée de salut, la première proposition matrimoniale qui lui fut faite. Elle devint la femme d'Arsène Durouze, clerc d'avoué, qui dérobait sous des manières courtoises, d'un genre démodé, un esprit dénué de tout sens artistique, des idées étroites, bientôt tourné au sectarisme et un penchant à l'avarice que l'âge développait. Dans les semaines de leur lune de miel, et afin de n'avoir aucun secret pour celui qui s'intitulait le compagnon de sa vie, Régine Durouze fit lire à son mari les poèmes recopiés avec soin dans un cahier noué, à la manière romantique de Faveur bleue. L'officier ministériel ne sut pas découvrir que ces pages décelaient un réel don poétique et une âme exquise, altérée d'idéal et de tendresse. Il rit sautement, tapota les joues de sa femme et opina. « Tu sais, j'aime autant que tu saches me faire des petits plats et me tailler des vestons d'appartement. Ne va pas parler de Thébers, dans la ville au moins, on doberait sur nous. » Elle soupira, rangea ses cahiers dans un tiroir, dont ils ne sortirent plus jamais, et réfugia sa pensée dans le souvenir de le repasser. Une fille leur naquit. Régine escompta trouver en elle la consolation de ses déceptions intimes. Mais l'enfant, au moral comme au physique, tenait de son père. Sa nature sèche, son caractère personnel, n'entendirent pas l'appel du cœur inassouvi, qui n'aspirait qu'à s'élever et à se donner. La jeune fille, à son tour, se maria. Des petits-enfants furent bercés par Régine Durouze, aïeule passionnée, mais discrète, acceptant avec gratitude les rôles d'utilité qui satisfaisaient son intense besoin de dévouement. L'inspiration poétique, à ce moment, lui revint. En quelques poèmes, demeurés secrets, elle exalta la douceur de se voir revivre en de petits êtres aimés et sa prière à Dieu, afin que la vie leur fût propice. Parmi les quatre enfants de sa fille, le second, un garçon appelé Claude, témoigna d'une vive prédilection pour la grand-mère attentive et indulgente qui, de son côté, n'osait marquer sa préférence en faveur du bambin. On trouvait qu'il lui ressemblait. Ce devait être vrai, car le regard déjà sérieux et parfois rêveur du petit, son sourire, une certaine façon qu'il avait de pencher la tête pour réfléchir, lui rappelait son propre père, le cher protecteur sitôt perdu, l'archiviste laborieux qui, de concert avec la jeune maman, fine et tendre, l'avait initié aux idéales croyances de la foi et du rêve. À mesure que grandit Claude, les affinités s'affirmèrent plus nombreuses, plus étroites, entre l'aïeul et lui. Madame Durouze le vit avec joie, s'enthousiasmer pour l'étude, pour la peinture, pour les beautés naturelles de la campagne. Ses succès d'écolier la ravirent, et un jour vint où l'Alléluia des revanches lui révéla son chant victorieux. Ce fut un beau dimanche d'avril, le mois des résurrections. Le garçonnet, alors âgé de 12 ans, et qu'elle était allée chercher pour une promenade, s'avança vers elle avec une émotion contenue qui le rendait timide. Une lumière intérieure rayonnait sur son visage juvénile. Il lui tendit des feuillets couverts de lignes inégales. « Grand-mère, j'écris cela. Je ne sais si c'est bien, mais ça m'a fait tant de plaisir. Papa et maman se sont moqués de moi, mais ils m'ont dit de te le montrer, parce que tu en serais contente. » C'étaient des vers, des poèmes ingénus, tels qu'elle en avait composé à cet âge, et qui décelaient des promesses non négligeables. Ainsi, l'enfant dont les regards reflétaient les siens possédait de même la source merveilleuse. Elle lui avait transmis le don divin. Il aurait, lui, le droit d'en user librement. Il réaliserait ce qu'elle avait ébauché. Dieu était bon de permettre ce miracle qui dissipait ses derniers regrets. Les yeux humides, Régine Durouze étreignit le petit Claude, baisa longuement le front élu et d'une voix fervente qui tremblait. « Oh oui, mon chéri, je suis heureuse. Tu ne peux savoir combien. C'est si doux d'être poète. Je t'apprendrai, tu verras. Et tu deviendras peut-être un grand poète, car la fleur qui s'épanouit en ton âme, c'est du silencieux sacrifice d'une autre âme qu'elle était close. » C'était « La flamme rallumée » par Lia Berger.